VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 21 décembre 2023. Il est 7h en temps universel. Voici le sommaire. À RDC, les élections générales prévues hier se poursuivent ce jeudi à cause de problèmes logistiques, mais les dépouillements ont déjà eu lieu dans de nombreux bureaux de vote.
Je viens d'assister au dépouillement, ça se passe bien, mais les superviseurs du site venaient de chasser quelques témoins. Selon elles, dans la salle, on devait trouver que 5 témoins et 5 observateurs.
Le point de la situation avec nos envoyés spéciaux et correspondants dès le début de ce journal. En Guinée-Bissau, le président Oumarou Sissoko Embalo a formé mercredi soir un nouveau gouvernement dans un contexte de crise marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale et des affrontements assimilés à une tentative de coup d'État. Les séparatistes Touareg ont annoncé hier avoir instauré un blocus sur les principaux axes du nord du Mali où l'armée malienne a repris pied ces dernières semaines. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Lionel Gaïma et les sports présentés par Nani Talani. Mais pour commencer, le journal. En République démocratique du Congo, les électeurs continuent à voter ce jeudi pour les élections générales dans des bureaux qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu ouvrir mercredi. Une situation qui provoque déjà la colère de l'opposition et des voix s'élèvent pour demander la réorganisation de nouvelles élections. Les précisions de John Lindon, envoyé spécial de VOA Afrique à Kinshasa.
C'est Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a lui-même fait l'annonce à la télévision nationale. Les bureaux qui n'ont pas du tout ouvert vont le faire jeudi, a-t-il déclaré. Aucune précision sur le nombre de bureaux concernés par cette prolongation. On sait tout au moins, selon les déclarations du président de la CENI, que pas moins de 70% de Congolais ont pu voter mercredi. Lors de précédentes annonces, la CENI avait laissé entendre que les bureaux ayant ouvert avec retard fonctionneraient durant 11 heures pour permettre à chaque électeur de voter comme le prévoit la loi. Dans une déclaration conjointe, 5 candidats parmi lesquels Martin Fayoulou ou encore le docteur Denis Mukwege ont lancé un appel au peuple congolais, à la CENI, au gouvernement et à la communauté internationale pour que les élections soient réorganisées à une date ultérieure. Pour ce qui est de l'élection présidentielle, Félix Tshisekedi, 60 ans, actuel président de la République, brigue un second mandat. Face à lui, 18 autres candidats de l'opposition. Les résultats de ce scrutin sont en principe attendus le 31 décembre 2023. John Lindon, envoyé spécial de la VOA Afrique à Kinshasa.
Quelques incidents ont été signalés à travers le pays. À Lubumbashi, dans le sud-est, des crépitements de balles ont été entendus hier soir au bureau de vote de l'école Saint-François. Pour savoir ce qui s'est passé, notre correspondant Narval Mabila a recueilli ce témoignage. Écoutez.
Madame, qu'est-ce qui s'est passé ici à Saint-François?
À Saint-François, depuis le matin, tout allait bien. Arrivé à 14h, presque 4 machines ne fonctionnaient pas. Il n'y avait pas l'énergie dans la batterie. Maintenant, les gens attendaient jusqu'à 17h. Arrivé à 17h, une maman là est venue et a informé que non, il n'y a pas encore de vote, on va fermer le bureau. C'est alors que les jeunes ont commencé à crier là-bas, comment nous allons voter seulement Moïse, pourquoi, ouvrez-nous les portes, nous allons voter, Boutchétié. Maintenant, il y avait beaucoup de bruit là-bas. C'est alors que les policiers aussi ont tiré des balles.
Ok, je vous remercie.
Le président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a annoncé hier soir à la télévision la poursuite des élections pour les bureaux qui ont connu des problèmes logistiques. Cependant, le dépouillement a commencé dans les autres bureaux. Ambiance de dépouillement rapportée par Eddy Isango, qui était au centre de vote Saint-Joseph et Likia à Kinshasa.
John Simi, témoin du candidat Roméo Moudissi. Je viens d'assister au dépouillement des candidats et ça se passe bien, mais on a un petit souci. Les superviseurs du site venaient de chasser quelques témoins. Bon, selon elle, normalement, dans la salle, on devait trouver que 5 témoins et 5 observateurs. Mais c'est ce qui nous a un peu surpris et nous ne sommes pas contents de ça.
Madame Mushinge Mukoma Mami, je suis de l'UNC.
On est
on peut assister. Les dépouillements se passent bien. On attend la fin. On a obtenu 261 bulletins votants. Et ça reste maintenant, les bulletins restants, on compte si, et pour additionner, si le total fera 750 bulletins donnés. Jusque là, j'ai pas d'inquiétude.
Gérard Mundi, Gabon. Pour faire le dépouillement, il est important que chaque candidat à ses témoins, il y a des observateurs. Pour le dépouillement, elle n'a pas chassé tout le monde. Il a été demandé à ce qu'il y ait au moins 5 personnes, 5 témoins, ou 5 votants volontaires qui devraient assister pour une transparence. Assister quand même à dépouillement. On cherche souvent des volontaires. S'ils sont là, alors, ils ont débordé, ils ont multiplié quand même le nombre de gens. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire rentrer tout le monde non plus. Le dépouillement ne peut pas se faire chez tout le monde non plus. On va prendre seulement une échantillon.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité, au Mali, les séparatistes Touareg ont annoncé hier avoir instauré un blocus sur les principaux axes du nord où l'armée malienne a repris pied ces dernières semaines. Le cadre stratégique permanent, alliance de groupes armés rebelles, a indiqué dans un communiqué avoir décidé l'instauration d'un blocus total sur les axes allant de la frontière algérienne vers les villes de Menaka, Kidal, Gao, Tombouctou et Touadéni, les principales localités du nord qui s'étendent sur une vaste zone entre la Mauritanie, le Mali et le Niger. Ce blocus concerne tous les produits et tout type de moyens de transport, précise l'Alliance rebelle dans ce communiqué. Pendant ce temps, l'ambassadeur d'Algérie à Bamako a été convoqué mercredi par le ministère malien des Affaires étrangères après des actes inamicaux et une ingérence d'Alger dans les affaires intérieures du Mali, selon le ministère. Il lui est notamment reproché des réunions avec des séparatistes Touareg sans associer les autorités maliennes. Rappelons que l'Algérie est le principal pays médiateur pour le retour de la paix dans le nord du Mali à la suite d'un accord dit d'Alger signé en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés à dominante Touareg. En Guinée-Bissau, le président Oumaru Sissoko Embalo a formé hier soir un nouveau gouvernement et a signé au chef de cette nouvelle équipe la lutte anticorruption dans un contexte de crise marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale. Jean-Roger Bion.
La lutte sans trêve contre la corruption doit être la toile de fond des tâches de ton équipe, a déclaré Oumaru Sissoko Embalo lors de l'investiture du nouveau premier ministre Rui Duarte Barros. Il a déjà été premier ministre d'un gouvernement de transition au début des années 2000 après avoir été ministre des Finances à la fin des années 90. Son prédécesseur Geraldo João Martins a été reconduit il y a 8 jours avant d'être limogé. Tous les deux sont membres du même parti, le PAIGC, qui dirige la coalition de l'opposition devenue majoritaire à l'Assemblée nationale après les législatives de juin dernier. Le président Embalo a annoncé la dissolution de cette Assemblée après des affrontements le 1er décembre qui ont fait au moins 2 morts à Bissau. Des éléments de la garde nationale avaient fait irruption dans les locaux de la police judiciaire pour extraire le ministre de l'Économie et le secrétaire d'État au Trésor qui étaient interrogés sur un retrait de 10 millions de dollars des caisses de l'État. Monsieur Embalo avait qualifié ces événements de tentative de coup d'État, alors que son adversaire de longue date, Domingo Soares Pereira, président du Parlement, avait dénoncé un coup d'État constitutionnel. La dissolution du Parlement appelle la tenue de nouvelles élections législatives, dont la date n'est pas encore connue.
Les États-Unis ont annoncé hier la libération de 10 Américains détenus au Venezuela en échange de laquelle Joe Biden, le président américain, a accordé sa clémence à Alex Saab, un proche du président vénézuélien Nicolas Maduro, accusé de lourdes malversations par la justice américaine. Celui-ci a été accueilli en grande pompe à Caracas, à l'aéroport, puis au palais présidentiel. « Nous avons réussi, je veux accueillir cet homme courageux. Après 1280 jours de séquestration, la vérité a triomphé », a lancé le président Maduro. L'accord passé entre les États-Unis et le Venezuela, dans lequel le Qatar a joué un rôle de médiation, voit aussi Caracas libérer au moins 20 prisonniers politiques. Israël a ordonné de nouvelles évacuations dans la ville de Khan Younes, la plus grande ville du sud de Gaza, pendant que les efforts se poursuivent ce jeudi pour obtenir une trêve dans le territoire où le bilan atteint désormais les 20 000 morts, selon le Hamas. D'après OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, la zone à évacuer abritait plus de 111 000 habitants avant le début de l'offensive israélienne il y a 2 mois et compte désormais quelques 141 000 Palestiniens réfugiés dans 32 camps pour fuir les combats. Lundi, l'armée israélienne avait indiqué intensifier ses opérations à Khan Younes. L'Ukraine a annoncé ce jeudi avoir essuyé une nouvelle attaque nocturne de la Russie avec 35 drones de fabrication iranienne, dont 34 ont été abattus. Les attaques se sont déroulées par vagues dans le courant de la nuit, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur la messagerie Telegram. Kiev accuse le Kremlin de chercher à terroriser la population civile ainsi et à détruire ses infrastructures énergétiques pour, comme l'hiver dernier, plonger la population dans le noir et le froid. À la même époque, l'hiver dernier, des millions de personnes avaient déjà été privées de courant en pleine vague de froid, ce que l'Ukraine veut à tout prix éviter cette année. La Corée du Nord n'hésitera pas à répliquer par l'arme atomique si elle est elle-même provoquée par des armes nucléaires, a affirmé son leader Kim Jong-un selon des propos rapportés ce jeudi par un média d'État. Kim Jong-un a ordonné au bureau des forces des missiles stratégiques de son pays de ne pas hésiter à lancer même une attaque nucléaire si l'ennemi provoque avec des armes nucléaires selon l'agence de presse officielle de Pyongyang. Washington et Séoul et Tokyo ont aussitôt réagi dans un communiqué commun en exhortant Pyongyang à cesser de mener de nouvelles provocations et à accepter leur appel à engager un dialogue substantiel et sans conditions préalables. Toute attaque nucléaire de Pyongyang sur les États-Unis ou leurs alliés provoquerait la fin du régime nord-coréen, avait alors averti Washington. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, la Minute Éco, c'est avec Lionel Gaïma.
Au Ghana, l'exploitation minière illégale menace la filière cacao, l'un des piliers de l'économie nationale, aux côtés de l'or et du pétrole. Face à la crise économique, des producteurs revendent leurs terres à des mineurs illégaux et des contrebandiers qui en exploitent le sous-sol. Le gouvernement, qui achète toute la production du pays avant de la revendre à des sociétés privées, a augmenté cette année de 63% le prix payé aux producteurs, mais cela ne suffit pas à les dissuader de vendre leurs terres à des fins d'exploitation minière non déclarées. Le Fonds monétaire international a approuvé ce mercredi le remboursement immédiat d'un prêt de 187 millions de dollars à la Zambie. Le pays revise aussi une proposition de restructuration de 3 milliards de dollars d'obligations que des créanciers officiels ont rejeté en novembre. L'Éthiopie et l'Égypte se rejettent la responsabilité de l'échec des négociations tripartites avec le Soudan au sujet du méga barrage construit sur le Nil par Addis Abeba, dont un quatrième round s'est achevé mardi sur une nouvelle impasse. Le grand barrage de la Renaissance, qui a coûté environ 3,5 milliards d'euros, est au cœur de vives tensions régionales depuis que l'Éthiopie a commencé sa construction en 2011.
L'actualité sportive, aujourd'hui, c'est avec Nanit Talanit. Bonjour Nanit.
Bonjour Oufa, bonjour à tous.
CAN 2023, le Ghana ira finalement en Guinée équatoriale pour ses préparatifs.
Après avoir un temps envisagé de se rendre dans le golfe Persique, puis en Afrique du Sud, c'est finalement en Guinée équatoriale que les Black Stars devraient se préparer avec un match amical face aux Allongues nationales. La Guinée équatoriale, elle, espérait affronter le Cameroun à Yaoundé le 8 janvier. Mais en fin de compte, le match n'aura pas lieu puisque les Lions Indomptables ont opté d'aller se préparer en Arabie Saoudite.
La FIFA a donné des détails concernant l'organisation annuelle dès 2024 de sa Coupe intercontinentale.
C'est en mars 2023 que la FIFA a approuvé la tenue à partir de 2024 d'une compétition interclub annuelle qui doit réunir les vainqueurs de la principale compétition interclub de chaque confédération. Dans la phase A, lors du premier tour, le vainqueur de la Ligue des champions de l'AFC ou de la CAF affrontera dans son stade le vainqueur de l'OFC. Le gagnant affrontera ensuite le vainqueur de la Ligue des champions de l'AFC ou de la CAF pour le deuxième tour. Dans la phase B, ce sera le vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF qui affrontera le vainqueur de la Libertadores de la CONMEBOL.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Les Congolais de la République démocratique du Congo et quelques-uns de la diaspora sont mobilisés depuis hier pour choisir leur président, mais aussi leurs députés nationaux et provinciaux et pour la première fois leurs conseillers communaux. Pour ces électeurs et bien d'autres, les attentes sont nombreuses et les défis sont immenses. Les envoyés spéciaux et correspondants de VOA Afrique ont demandé à quelques électeurs ce qu'ils attendent de leurs futurs dirigeants élus. Écoutez.
Moi, mon nom, c'est Mauro Espérance. Je suis né à Mazizi, dans le village de Koza. Je suis une couturière. Et comme âge, j'en ai 23. Le président que nous attendons, qui arrivera bientôt au pouvoir, nous voulons le voir puissant pour qu'il nous donne la paix. C'est ce dont nous avons besoin, car ici nous souffrons terriblement. Qu'il nous donne la paix, pour voir si nous pouvons rentrer chez nous au village. Ici, dans le camp, les difficultés que nous rencontrons sont le manque de nourriture. Nous n'arrivons pas à en trouver à temps. Si on nous apporte de la nourriture, elle est distribuée en fonction du nombre de personnes dans la famille. Par exemple, si nous sommes trois, mon enfant, mon mari et moi, on nous donne une petite quantité pour trois personnes. Cette nourriture ne peut même pas durer une semaine et les humanitaires réapparaissent après plusieurs mois, alors que nous mourons de faim. Parfois, nous essayons de trouver quoi faire comme travail, mais nous n'en trouvons pas. Si la paix revenait, ma vie pourrait sans doute changer, parce que je pourrais retourner dans notre village et faire bien mon travail, parce qu'ici je ne trouve pas de clients qui paient bien, ils me paient entre 200 et 500 francs congolais, alors que chez nous je trouvais plus que ça. Vraiment, on gagnait beaucoup, cet argent pouvait me permettre de faire de l'élevage par exemple des chèvres et de l'agriculture des pommes de terre. Donc si on rentre, la vie pourrait être meilleure. Vous voyez, je suis enceinte. Accoucher dans le camp est très douloureux, parce qu'on ne peut pas trouver la nourriture. J'ai envie d'accoucher chez moi, parce que c'est là que l'enfant grandira bien. Ici, la faim est terrible. Je veux rentrer chez moi. Si la guerre se termine avec le M23, j'imagine un Congo meilleur. Si on a la paix que le nouveau président pourra nous donner, le Congo pourra aller mieux, parce que nous serons déjà chez nous, et nous ne manquerons plus de rien, comme la nourriture, on ne pleurera jamais, donc le pays sera paisible si la guerre cesse. Mon message au prochain président est que nous l'aimons et une fois au pouvoir, il doit être fort et faire de son mieux pour mettre fin à la guerre. C'est le message que je lui adresse et que Dieu le bénisse.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Je suis Fabien Moufaboule. Je suis né dans la province de Maniema, dans la ville de Kindu. Et j'ai 33 ans et je suis aussi un jeune opérateur économique. Premier point que je souhaite que le prochain président nous amène dans ce pays, stabiliser notre pays sur le plan sécuritaire et sur le plan politique et sur le plan économique aussi. S'il faut parler, c'est le premier point qui est le point de sa sécurité. Lorsqu'un pays est bien organisé sur le plan sécuritaire, je pense qu'aucun pays peut se moquer de ce pays. Tel que notre pays aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, donc rien ne marche. Et pour ce qui est de la politique, Notre pays est instable sur le plan politique. Pourquoi? Parce que il n'y a pas séparation du pouvoir. Et pour ce qui est du point de vue économique, notre pays, depuis l'indépendance, vit une économie extravertie. Quand on parle d'une économie extravertie, c'est-à-dire nous dépendons toujours de l'extérieur. Pourquoi un grand pays comme le Congo pouvait toujours continuer à dépendre de l'extérieur? Si vraiment le prochain président congolais et qui répond à ces attentes que je viens de vous énumérer, ça va impacter au quotidien d'abord personnellement en tant qu'opérateur économique et que si nous ne dépendons plus de l'extérieur avec notre économie et que nous produisons à l'interne, les taux du dollar vont baisser. Et quand les taux du dollar vont baisser, je vais me retrouver dans mes affaires, dans tout ce que je suis en train d'entreprendre en tant qu'opérateur économique. Si ce prochain président pensera vraiment à séparer les pouvoirs, je pense que la justice fera son travail comme il se doit, il doit sanctionner et la politique fera aussi son travail. Le seul message que j'aimerais transmettre au prochain président de ce pays, qu'il soit un président qui se base beaucoup plus sur les attentes de sa population. Puisque si un président élu, s'il n'est pas basé sur les attentes de sa population, est basé seulement aux attentes des occidentaux ou des décideurs internationaux, ça ne va pas faire développer un pays. Aucun pays au monde ne se développe seul. C'est l'ensemble des populations et les acteurs politiques qui amènent un pays à se développer.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Moi, c'est monsieur Tikudumula Nkashama Fabien. Je suis né à Lubumbashi. J'ai 35 ans et je suis médecin de la République démocratique du Congo. Les trois principales choses que nous attendons du futur président, nous avons le rajeunissement de la classe politique, le social, l'amélioration du social et puis la sécurité. Ces attentes, une fois réalisées, ça va permettre au pays de se décoller. Un pays en guerre ne peut jamais se décoller ni se développer. Ça fait plus de 20 ans que l'Est est en souffrance des guerres. Nous attendons de ce président d'améliorer ses conditions de vie dans ce coin-là. Nous sommes un grand pays et dans ce pays, c'est un coin. Manque d'eau potable, manque quoi se nourrir, manque d'hôpitaux, manque des routes de certes agricoles. Les changements de la classe politique, il y a eu trop de détournements dans ce pays. Des années que de détournements. Comment un pays va se développer tant qu'il y a des détournements? Un Congo sous la direction d'un président qui répond aux attentes de sa population sera un Congo meilleur. Un Congo uni, un Congo prospère. Un Congo qui sera envié par tout le monde, parce que nous sommes bénis par Dieu, par les sols, les sous-sols et les sols. Le message que je lance au futur président, qu'il soit un président qui réponde aux attentes et qui a l'écoute de sa population. Un président dire avec ses collaborateurs. Un président dire en prise de décision. Un président digne de son rang. Un président que tout le monde espère voir. Un président qui sera l'espoir de sa population. Un président qui va laisser des traces dans ces pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Je m'appelle Maman Alice Kilaneko. J'ai 46 ans. Je suis née ici à Kinshasa. Je fais la cuisine congolaise. Communément appelé Malewa. Ce que j'attends au futur président de la République, qui veuille la scolarité des élèves, du côté santé, les salaires des fonctionnaires, des policiers, qu'il crée aussi des emplois. C'est pour que nous ayons une bonne vie et que les enfants aussi étudient allègement. Le militaire aide leur famille facilement. Ça va m'ajouter beaucoup de choses parce que j'avais pas envie de faire le Malewa parce que je suis D6. Ce que j'avais envie de faire, être une enseignante. C'est ça. Et j'ai laissé l'enseignement parce que j'avais vu le salaire n'était pas vraiment bon. Mais s'il arrange du côté scolarité, le paiement, je peux me retourner au renseignement. S'il peut nous aider à toutes ces choses, nous aurons de bonnes conditions de vie. Le message que je vais donner au futur président de la République, qu'il écoute surtout son peuple, pas son entourage.
C'était là quelques attentes exprimées par des électeurs congolais par rapport à leur futur président de la République élu. Ces réactions ont été recueillies par les envoyés spéciaux et correspondants de VOA Afrique en RDC. Vous pouvez retrouver la couverture des élections en RDC sur notre site web voaafrique.com et sur nos différentes plateformes numériques Facebook, YouTube et X, autrefois Twitter. On va donc passer maintenant au Tchad pour parler du gouvernement de transition qui a suspendu les salaires du mois de décembre de quelques enseignants grévistes des grands lycées et les membres du comité de crise ayant lancé appelé à la grève. Une situation qui met en colère les enseignants victimes de cette décision. Ils n'entendent pas céder à ce qu'ils considèrent comme une menace et une intimidation. André Kodmadingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Plus de 600 enseignants n'auront pas la possibilité de faire des cadeaux à leurs enfants en ces fêtes de Noël et de Nouvel An. Leurs salaires sont suspendus pour une grève qui, selon le gouvernement, est illégale. Mais pour beaucoup d'enseignants, cette décision prise à la veille du réveillon et de la Saint-Sylvestre est antisociale et dénote la mauvaise foi des autorités de transition.
Le gouvernement de ce pays a toujours tendance à confondre vitesse et précipitation. Dès lors que les textes sont en relecture, on ne peut pas imaginer suspendre abusivement le salaire des fonctionnaires. On considère cet acte comme un acte criminel social.
Moi, je dirais que c'est un sabotage. Le Premier ministre est en train de saboter la politique du président. Nous sommes en décembre, c'est la fête des enfants, on coupe le salaire des parents. Hein? Ah, c'est terrible ça. Franchement, c'est interpeller le président directement. Il doit se lever et agir en tant que père de la nation.
Nous sommes gérés par des gens irresponsables. À chaque fois qu'ils sont en position de faiblesse, ils doivent toujours créer une situation pour retarder ces pays.
Contacté par VOA Afrique, le porte-parole de la primature ne souhaite pas se prononcer sur cette situation. Les autorités du ministère de l'Éducation nationale, quant à eux, restent indifférents aux cris des enseignants alors que les enfants sont à la maison depuis 2 mois. Pour certains enseignants, la suspension de salaire n'entame en rien leur détermination.
Dans une lutte, il y a aussi un prix à payer et nous nous sommes préparés pour ça et la grève va continuer. Parce qu'ils disent, si on arrive à couper les salaires de quelques enseignants des grands lycées, ça va amener ces grands lycées à reprendre. Et si ces grands lycées reprennent, c'est que tout le Tchad va reprendre aussi le cours. Mais là, ils ont tiré à terre.
Couper les salaires, c'est ce que Déby nous a déjà fait en 2017. Donc, ce n'est pas étrange pour nous.
Ce n'est même pas le gouvernement, c'est le bureau déchu là qui a fait comprendre au gouvernement que les enseignants, là, il suffit seulement de menacer leur salaire, ils vont reprendre.
Mais selon les sources proches du syndicat des enseignants du Tchad contesté par la base, c'est une démission de ces enseignants puisque ces débrayages ne respectent pas la législation du travail. La même source indique que cette crise est montée de toutes pièces par le gouvernement lui-même pour déstabiliser le CET.
Je pense que le gouvernement ne sait pas ce qu'il veut. Somme toute, il a créé des problèmes de telle sorte qu'il n'a plus d'interlocuteur. Mais avec qui exactement le gouvernement veut discuter pour régler le problème? Le problème est là.
Barka Michel, secrétaire général du SINAPET, le syndicat national des professionnels de l'éducation du Tchad. Pour lui, le gouvernement a fait du pilotage à vue.
Il pense que la solution, c'est de punir les enseignants de cette manière-là, tout en oubliant que le salaire est sacré. Hein? Couper le salaire des gens et mettre ces gens en difficulté. Et en même temps, créer des troubles parmi les travailleurs. Et je crois que ça, c'est très dangereux. Le salaire, c'est pas l'enseignant seulement, c'est sa famille. La légitimité de la grève vient du fait que les gens se sont retrouvés sans salaire. Comment voulez-vous qu'ils réagissent?
Entre-temps, le comité de crise qualifie cet acte de cruel et inhumain et n'entend pas courber les chines. Il maintient son mot d'ordre de grève sèche et limitée sur toute l'étendue du territoire jusqu'à satisfaction totale de ses revendications. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
L'actualité au quotidien sur VOA Afrique, c'est Le Monde aujourd'hui. À 5h30 et 7h30 GMT, démarrez votre matinée par une bonne dose d'informations crédibles, fiables et objectives. Et rendez-vous le soir à 17h30, 18h30 et 19h30, temps universel, pour ne rien manquer des grands sujets du jour. Reportage, analyse, la rédaction de VOA Afrique à Washington et ses correspondants vous informent, vous expliquent et vous font vivre l'actualité en Afrique, aux États-Unis et dans le monde. Politique, économie, société, sport, Le Monde aujourd'hui, c'est votre édition d'information sur VOA Afrique. À ne pas manquer.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, un seul site internet www.voafrique.com où l'information est disponible en temps réel 24 heures sur 24. L'information est également disponible sur nos différentes plateformes digitales Facebook, YouTube et X, autrefois connues sous le nom Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.
Mami na pashulale,
tua mama we,
ni ali maleno.